pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Quand le pouvoir est en danger, il est capable des pires choses. Qu'est-ce qui reste à la droite ordinaire aujourd'hui pour se maintenir au pouvoir ? L'alliance avec l'extrême droite. Qu'est-ce que la droite va consentir à l'extrême droite pour l'associer au pouvoir ? Sur le plan économique, il n'y aura rien de changé. Le pognon est au pouvoir, il va rester au pouvoir avec l'extrême droite. Hein. Donc que va demander le Front National ? Bah, les ministères qui lui paraissent importants. La police, où ils peuvent faire très mal. La période est extrêmement dangereuse à cause de la confusion. L'extrême droite bénéficie de la confusion. Les programmes d'histoire et l'abrutissement des gens est tel que je me demande si les jeunes pourront distinguer un régime démocratique d'un régime de dictature totalitaire. Pour ça, il faut un minimum de formation civique et historique. Tout ça va ensemble.
Tirons-nous toujours des leçons de l'histoire ?
Français, vous avez vraiment la mémoire courte.
Salut les amis, c'est La Voix Off avec notre ami André, le prof d'Histoire Géo.
Salut à tous.
Second épisode de cet exposé d'André où nous poursuivons ces fantômes des années 30 qui semblent à nouveau planer sur nos années 2020. Quoique ce climat international de tensions inter-impérialistes pourrait aussi évoquer la veille de 1914. Même si les méchants d'aujourd'hui ne sont plus les vilains boches, hein, devenus de gentils allemands, les méchants restent les Ruskov, même quand ils ne sont plus soviétiques. Aberrantes et dangereuses propagandes guerrières, bourrages de crânes bellicistes organisés par les États-Unis et servilement relayés par un gouvernement français qui, une fois de plus, nous prépare à une guerre contre la Russie. On voit aussi partout dans le monde une montée des périls autoritaires et fascistes. Et aussi en France où le pouvoir instaure une répression anti-étrangers et anti-mouvements sociaux. Les lois xénophobes et antisociales de Darmanin peuvent faire penser au décret-loi Daladier passé en force en 38-39, sorte d'ancêtre du 49-3. Et c'est sur ces lugubres années 38-39 qu'on s'est quitté au précédent épisode. Quand avec Daladier, la France bascule dans une dictature policière qui ne dit pas son nom. Et avant même l'invasion nazie de 40, cette étrange défaite facilitée par la complicité des élites industrielles, financières et militaires françaises. Histoire qu'on vous a souvent expliquée dans cette émission. On va aujourd'hui avec André beaucoup évoquer la figure d'Édouard Daladier du Parti Radical. Parti qui, comme celui de Macron aujourd'hui, se prétend issu d'une certaine gauche, non révolutionnaire bien sûr. Parti pas si radical que ça, aux postures très ambiguës, mais très à droite de la supposée gauche socialiste non révolutionnaire non plus. Avec les modérés socialistes de la SFIO et les communistes, le Parti Radical aide de la coalition de Front Populaire dirigée par Léon Blum qui remporte les élections de 1936, un immense espoir pour le peuple. Mais les radicaux se rallieront rapidement aux intérêts de la grande bourgeoisie industrielle et bancaire qui envie l'ordre social qui règne dans l'Allemagne nazie. On le rappelle une fois de plus, en 1938, un an avant le pacte germano-soviétique de 1939, Daladier et le Britannique Chamberlain signent à Munich un accord de non-agression avec Hitler. Et sur le plan intérieur, le gouvernement Daladier profitera de ce contexte guerrier pour faire passer des lois racistes et antisociales dont Vichy se servira. Alors une fois de plus, comparaison n'est pas raison, mais 1938-39 éclaire aussi notre époque.
Oui, alors là, cette période, elle est vraiment une période sinistre de l'histoire de France, hein, sur laquelle on passe assez allègrement dans les programmes qu'on nous proposait d'enseigner dans le secondaire. Hein. Dès avant la guerre, il y a préparation de ce qui va nous arriver pendant la guerre. Bon, les Allemands sont déjà en France avant même d'y mettre le pied.
On le voit notamment au niveau des forces de police, c'est l'historienne Annie Lacroix-Risse qui l'a démontré à force d'archives. Il y a déjà des contacts entre les polices nazies et la police française, notamment l'élaboration du fichier des Juifs de France qui servira aux arrestations massives pour la déportation, arrestations effectuées par la police française.
Ce qui fait mal quand même, c'est que ça se passe avec l'Assemblée nationale, les députés, c'est ceux du Front populaire.
Alors évidemment, moins les députés communistes hein, mis hors la loi en 39.
Sous le Front populaire, il y a une alliance entre Parti radical, SFIO, Parti socialiste, et Parti communiste. C'est cette alliance qui préside aux accords Matignon, qui ont été une avancée sociale. Passer de ça à ce qui se passe dans les années 38-39, alors pourquoi ? Cette alliance est une alliance assez peu homogène. Elle va des communistes jusqu'aux radicaux. Mais jusqu'où les radicaux sont-ils à gauche ? C'est un petit peu comme le Parti Socialiste d'aujourd'hui, enfin toute proportion gardée, mais c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que le Parti Radical choisit, après le Front Populaire, de lâcher le Front Populaire et de se rapprocher des combinaisons avec la droite. Auquel cas, il n'y a plus de majorité. Les socialistes, eux, sont un peu à la charnière entre Parti Communiste et Parti Radicaux, mais ils vont pencher côté radical, par anticommunisme. Et oui, il y a au sein du parti SFIO des gens qui sont anticommunistes. Et dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement syndical, on a vu que la CGT s'était réunifiée en 1935, juste avant le Front Populaire, et ça a permis la puissance du mouvement social. Mais qui a gagné dans cette opération ? Les communistes. Et la CGTU, les unitaires de la CGT, proches du Parti communiste, hein, sur une ligne de lutte des classes, etc., de combat contre le capital. Mais il y a à l'intérieur de la CGT des droitiers, des gens du Parti socialiste ou proches du Parti socialiste, qui sont carrément à droite, anticommunistes, qui sont effrayés par les progrès des unitaires, c'est-à-dire des militants communistes à l'intérieur de la CGT, et qui veulent rompre l'accord. Et ils vont y parvenir assez rapidement. Et en 38, c'est consommé, il va y avoir une rupture à l'intérieur du mouvement ouvrier. Une des offensives du patronat, ça va être de briser l'unité. Briser l'unité politique, briser l'unité syndicale. Une fois marginalisés les communistes, on va pouvoir s'occuper très sérieusement de l'opposition. Tout ce dont on va parler est le résultat de ce basculement. Ça commence avec la pause décrétée par Blum en 37. Blum, certainement influencé par les milieux d'affaires. Hein. Blum, c'est un bourgeois, hein, et il vient du Conseil d'État, etc. Il a ses relations. On lui dit, oh là, ça ne peut pas durer, il faut relever le pied. Bon, effectivement, Blum relève le pied, il fait une pause. La pause, c'est la fin du Front Populaire.
Pourquoi une pause ? Pour une raison bien simple, c'est que depuis 8 mois passés, nous sommes allés très vite et qu'après une course si rapide, il peut être naturel de souffler un peu.
Arrivé au pouvoir en surfant sur l'immense mouvement social de 1936, Léon Blum annonce une pause des réformes dès 37. Ce qui pourrait d'ailleurs nous faire penser au virage droitier de la rigueur opéré en 1983 par les socialistes au pouvoir, à l'époque où des gens croyaient encore que Mitterrand était de gauche.
Nous pourrons repartir bientôt ensemble, repartir pour de nouvelles conquêtes, pour de nouveaux progrès et pour de nouvelles victoires.
Alors, qu'est-ce que cette gauche non communiste reproche aux communistes ? De quoi les accuse-t-on ? Les syndicalistes proches du PS les accusent de vouloir noyauter la CGT et d'avoir entraîné les ouvriers dans des luttes qui ne sont plus des luttes syndicales, qui sont des luttes politiques, etc. Que reproche-t-on aux communistes ? D'être des bellicistes, parce qu'ils sont contre la politique munichoise. Et ils sont pour armer la France contre les dictatures. Or, en s'appuyant sur le mouvement pacifiste, qui est assez fort, en particulier à gauche, on dit les communistes sont des bouts de feu. Pour soutenir les soviets, ces gens vont vous amener la guerre. Ces gens soutiennent le système communiste soviétique, qui est dictatorial, etc. On commence à avoir un anticommunisme de gauche très virulent, très fort. Et c'est là-dessus, évidemment, que s'appuie le patronat. Là où les choses se décident, c'est à partir du moment où Daladier est élu en avril 1938, il devient président du Conseil, entièrement tenu guidé par les milieux d'affaires, Banque de France, etc., par les hommes de la synarchie qui l'encadrent complètement. Et la Banque de France demande un assainissement de la politique économique, politique d'austérité. Arrêter de dépenser du fric, etc. Il faut que les ouvriers se remettent au travail. Il s'agit de faire une politique de régression. Le 12 avril 1938, le ministère d'Allier obtient une avance de la Banque de France, 10 milliards, sous condition évidemment. Qu'est-ce qu'on lui demande ? On lui demande de reprendre les pleins pouvoirs, c'est-à-dire de s'opposer à l'Assemblée. Il n'est pas sûr d'être majoritaire. Donc de court-circuiter l'Assemblée des députés pour prendre ces mesures qui vont être des mesures réactionnaires, des mesures très impopulaires, évidemment. Il s'agit de s'attaquer au salaire, hein. Satisfaire le patronat, de revenir sur un certain nombre de dispositions, en particulier la disposition des 40 heures, la limitation du temps de travail à 40 heures. Curieusement, d'ailleurs, indépendamment de la loi qui a été prise, on est dans une période de baisse du temps de travail. Parce que d'abord, il y a un chômage important qui se manifeste parce que la France est en crise. La France finit par être atteinte par la grande crise des années 30. Elle a mieux résisté que les autres pays, mais elle est atteinte quand même. Et donc, il y a une régression. Donc, les milieux patronaux, les milieux d'affaires demandent de revenir sur des dispositions qui ont été prises au moment du Fonds populaire en particulier. Il faut arrêter les augmentations de salaires, si possible même de faire régresser les salaires. En février 1937, d'ailleurs, Blum s'était déjà rendu aux oligarchies financières en faisant la pause. Il leur avait assuré que bon, on allait arrêter les conneries et puis que les gens allaient se mettre au travail.
Je voudrais maintenant adresser un ardent appel au pays, le prier d'avoir confiance en lui-même et dans un avenir qui ne dépend que de notre commune volonté de calme, de discipline et de paix sociale.
Il s'agit de diviser le mouvement ouvrier. On va se servir pour ça des droitiers de la CGT, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas des unitaires, qui ne veulent plus faire accord avec l'ancienne CGTU, c'est-à-dire la CGT, lutte de classe, parti communiste, etc. Là-dedans, il y a des gens qui sont à la manœuvre, Belin, Jouot, même le secrétaire de la CGT, et ces gens veulent rompre avec la politique de lutte, de revendication du Front populaire. Et ils vont être les artisans de la division, par anticommunisme, très clairement. Un certain nombre de ces gens-là, qui sont à la manœuvre pour diviser la CGT, vont se retrouver sous Vichy, dans des commissions de travail pour élaborer un nouveau type de syndicalisme, le corporatisme facho. Alors, ce sont souvent des gens issus du syndicalisme, soit des instituteurs, soit des postiers, des fédérations modérées, plutôt modérées, col blanc, etc. Ces gens-là sont pour la collaboration de classe. Ils ont d'ailleurs des liens avec le patronat. Ils ont des consignes. Il y a des accords discrets. Daladier prend les pleins pouvoirs et va s'attaquer sur deux fronts au mouvement révolutionnaire. D'abord sur le plan social. Alors, il y a un grand mouvement de grève en novembre 1938 contre ces mesures qui sont prises par le gouvernement. Et là, le patronat, aidé par le gouvernement, va opérer une répression pour casser le mouvement de grève, qui va être un échec. Bien sûr, les droitiers de la CGT, oui, vont dire, vous voyez bien, avec les communistes, ils vous lancent dans des aventures comme ça, puis vous vous cassez la gueule, etc. Et ça va servir de prétexte pour la rupture définitive entre les ex-unitaires, CGTU, et la CGT. Bon, pour appliquer sa politique, Daladier, vu sur injonction des financiers, va faire passer 32 décrets-lois, des lois qui passent en force.
Des sortes de 49-3 de l'époque.
12 sur les finances. 3 sur les prix, 8 sur la législation du travail, 1 sur les allocations familiales, 6 sur les travaux publics et 2 sur les étrangers. Le début de la chasse aux étrangers, politique clairement xénophobe, inspirée par le patronat, consistant à mettre au banc de la société et sous régime policier les gens qu'on considère comme dangereux, les étrangers nouvellement arrivés en France et bien au-delà, bien sûr. On va créer un nouveau statut légal des étrangers en France. Ce statut, il est important parce que, outre qu'il dénote une fascisation des esprits, des élites, des dirigeants français, il va permettre, pendant le régime de Vichy, d'opérer une politique de rafle contre les juifs et au-delà même des juifs. Parce que quels sont ces éléments étrangers qui sont visés? Tous les gens qui sont venus dans les 10 dernières années, à moins de 10 ans, qu'on les considère comme suspects, d'avoir été naturalisé un petit peu rapidement. Là-dedans, il y a beaucoup d'antifascistes. Il y a bien sûr des gens qui sont venus par besoin économique, mais là-dedans, il y a énormément d'antifascistes. Italiens, Polonais, sont des pauvres. Et les gens qui vont nourrir le réseau Manouchian faisaient partie de ces gens-là, des gens qu'on retrouvera comme Krasucki, par exemple, qui était des grands dirigeants de la CGT. C'était des pauvres. C'était des gens qui travaillaient dans le tissu, dans le... C'est des gens très modestes, des artisans et trucs comme ça. Officiellement, on dit c'est parce qu'ils viennent faire concurrence aux artisans français, aux entreprises françaises, etc. Mais on les considère comme des gens dangereux. Et il faut les maintenir sous surveillance. Et donc on va établir un fichier. Au-delà d'ailleurs de ce fichier des étrangers, ça va être un fichier des gens de la CGT et des communistes. Ce fichier va être très très utile à la police de Vichy à partir de 1940, pour traquer les communistes, les militants de la CGT, etc., qui vont être dans la même fournée que les juifs. Et on ne faisait pas la différence, parce que ce qui caractérise le fascisme français, qui ressemble beaucoup au fascisme allemand de la même époque, c'est que on confond dans la même haine et dans la même vindicte les communistes et les juifs, hein, le judéo-bolchevisme. Beaucoup de gens ont oublié aujourd'hui, y compris d'ailleurs des juifs, qu'ils ont été associés aux communistes, hein, qu'on a associé juifs et communistes dans la même opprobre et dans la même répression. Dans les déportés, ils font pas la différence, hein. Tout le monde est déporté. Bien sûr qu'il y a des rafles de juifs spécifiques, hein, celle du Veldiv, on le sait bien. Mais beaucoup de déportés sont pas juifs. Mais en revanche, ils ont cette qualité d'être des militants de la CGT ou du Parti communiste ou proche. Ceci naît en 38, pas en 40, en 38. D'ailleurs, nous verrons qu'un certain nombre de gens qui ont été à l'initiative de ces lois vont se retrouver aux affaires, dans des fonctions publiques extrêmement élevées, policières généralement, sous le régime de Vichy. Donc ils ont fait la loi et ils vont l'appliquer sous Vichy. On dit parfois, oui, c'est parce que l'opinion est xénophobe à l'époque. Non. L'initiative et l'élaboration de ces lois doit beaucoup à la police et au patronat. Deux éléments déterminants pour l'élaboration de ces lois et leur application, c'est le patronat, le président de la Chambre de commerce de Paris, un certain Ferrasson. Dans les déclarations antisémites, xénophobes de l'époque, on retrouve deux personnages extrêmement importants. Hein. L'un est ministre des Affaires étrangères, c'est Georges Bonnet. C'est un Munichois de première, hein. C'est un radical dont les discours sont les plus antisémites ou les plus xénophobes. Et également Albert Sarraut, ministre de l'Intérieur. Ces deux ministres extrêmement importants sont parmi les instigateurs de ces lois. Voilà ce que dit Georges Bonnet, ministre des Affaires étrangères, à Albert Sarraut, ministre de l'Intérieur. Parlant des étrangers. Beaucoup d'entre eux sont entrés en France dans l'intention de s'y établir en usant de procédés illicites ou frauduleux, utilisation de visas temporaires ou de transit, ou bien sans aucun document, en se confiant à certaines agences clandestines. Ils ne figurent sur aucune statistique et ils échappent tant aux investigations qu'au contrôle de notre administration. Cette émigration ne répond pas à un besoin de l'économie française car elle ne nous fournit à peu près exclusivement que des petits commerçants, des artisans, des courtiers de toute nature. Étant donné les déficiences physiques et même les tares héréditaires dont sont fréquemment atteints les individus qui la composent et qui n'ont été soumis en pénétrant sur notre territoire à aucun contrôle sanitaire, elles concourent d'une manière anormale à l'encombrement de nos établissements hospitaliers ou d'assistance. D'autre part, les méthodes de travail propres aux Israélites orientaux, qui tiennent rarement compte des règlements en vigueur, sont de nature à éliminer, notamment à Paris, l'artisan français, tout en provoquant un abaissement de la qualité qui a été jusqu'ici le trait et l'arme essentielle de notre production artisanale. La nouvelle loi polonaise sur la nationalité impose donc d'ajouter aux dispositions générales imminentes comme le renforcement de la surveillance de nos frontières des mesures spécifiques pour tarir une immigration dont la nécessité ne se fait point sentir et dont les inconvénients sont évidents. Donc on va s'attaquer aux juifs polonais, pauvres gens, etc., accusés de toutes les tares et de tous les défauts. On a les mêmes types de discours à la Chambre patronale de Paris, c'est le patronat. Ces gens sont antisémites, sont anti-étrangers. Ces lois sont des lois policières qui s'élargissent aux gens de la CGT et du Parti communiste, associés à ces étrangers qui viennent manger le pain des Français, etc., et qui sont tellement dangereux. On prévoit des centres d'internement qui vont servir pour les républicains espagnols. En 1939, les républicains espagnols, fuyant la répression terrible du régime de Franco qui a gagné en Espagne, passent en France et là sont internés dans les Pyrénées-Orientales, dans des camps du côté de Collioure, etc. Ceux qui ne réussissent pas à s'échapper vont être livrés aux autorités allemandes et beaucoup sont morts à Mauthausen en camp de concentration. Donc, des lois policières prises à l'instigation de policiers, du directeur de la Sûreté Générale de Paris, Bussière. Daladier se laisse dicter la plume, ce sont des décrets-lois, hein. Ils ne sont pas élaborés par l'Assemblée. C'est une mesure gouvernementale, de l'exécutif. On est en train de préparer tranquillement le régime d'exception. Alors il ne reste plus maintenant qu'à organiser la défaite, de façon à amener au pouvoir des gens qui vont appliquer ces mesures. Tout ça est déterminé, il ne faut pas croire que « Ah ben, ça tombe bien, Pétain il est d'accord avec les mesures que nous avons prises en 1938 ». Non, pas du tout, hein, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Hein. Pétain va être mis là, parce qu'on sait que Pétain est un homme tout à fait apte à appliquer cette politique d'extrême droite fasciste.
Vichy ne fera que s'appuyer et amplifier ce qui a déjà été impulsé avant-guerre.
Et d'ailleurs, ça va être les mêmes hommes. C'est la chasse aux clandestins. Je cite Lacroix-Riss. Bonnet annonçait ainsi la chasse aux clandestins qui fut lancée par les décrets-lois du 2 mai, aggravant les peines pour délits relatifs aux conditions de séjour en France, interdisant de les adoucir par des circonstances atténuantes ou du sursis, et donnant aux préfets des départements frontaliers le droit de prononcer des expulsions sans en référer au ministre de l'Intérieur. On voit des choses un peu semblables en France aujourd'hui. Hein. Une circulaire à tous les préfets et commissaires spéciaux prévit l'expulsion des sujets polonais en situation irrégulière. Le décret du 14 réduisit la liberté de déplacement des travailleurs immigrés. Le 19, Bonnet informa Léon Noël de la nouvelle circulaire des services de son département, prescrivant à nos consuls de refuser les visas demandés par les artisans, petits commerçants, qu'ils soupçonneraient de vouloir s'établir en France. On signalerait confidentiellement aux consuls que, malgré son caractère général, elle visait les ressortissants polonais appartenant aux minorités nationales. C'est une circonlocution désignant les juifs. Polonais appartenant à des minorités nationales, on a bien compris. Bref, l'expulsion des sujets polonais en situation irrégulière avait été décidée et ne serait plus jamais fictive. Le cas échéant, on userait des mesures spécifiques prônées le 18 avril à Sarrau, non encore adoptées, telles que le refoulement sur la Pologne des ressortissants polonais entrés en France depuis moins de 5 ans et se trouvant en situation irrégulière. Ferrasson, qui est président de la Chambre de commerce de Paris, intime du tandem Daladier-Bonnet, en réclama d'autres le 31 mai devant l'Assemblée des présidents de chambres de commerce. L'État devait appliquer aux artisans et commerçants étrangers le même régime de règles strictes et de contrôles sévères qu'aux travailleurs étrangers, c'est-à-dire modifier le régime de la naturalisation fixé par la loi du 10 août 1927. Donc on revient sur des lois qui avaient été votées par la République concernant les gens naturalisés ou les gens étrangers, etc. Il y a effectivement une réaction et une préparation à ce que va devenir la France de Vichy. La France de Vichy a arrêté des ressortissants français et les a livrés à la puissance allemande, un des rares pays d'Europe qui a livré ses ressortissants à une puissance étrangère. C'est dire jusqu'où a été le crime de ce régime fasciste de Vichy. Cette xénophobie vise les éléments juifs, bolcheviques, tous ces gens qu'on soupçonne de soutenir la révolution étrangère, parce que les motifs économiques sont une chose, mais les motifs politiques sont une autre chose encore. Et c'est ce qui explique pourquoi on va utiliser ces mesures policières contre le Parti communiste et les militants de la CGT. Ceux qui sont à la manœuvre de ces lois ignobles, prenons Bussière, par exemple, qui était le chef de la Sûreté nationale en 1938. Hein. Bussière devient préfet du Pas-de-Calais, puis préfet de police, sous Vichy. Fourcade, directeur de la police du territoire et des étrangers, va devenir donc sous Vichy directeur de la police des territoires et des étrangers en charge de l'internement des juifs et de la chasse aux communistes. Il est le collègue de Pierre Pucheux, celui qui a choisi les fusillés de Chateaubriand, Guy Moquet, etc. Ce Pucheux qui est secrétaire d'État à l'intérieur, un des rares collaborateurs qui vont être fusillés à Alger, parce qu'il s'était réfugié à Alger pensant qu'il s'en tirerait. Donc les décrets du 12 novembre 1938 qui vont frapper tous les naturalisés depuis moins de 10 ans, et on prévoit d'ailleurs la privation du droit électoral pendant 5 ans, et également on prévoit l'ouverture de camps spéciaux pour les étrangers, ceux qui vont permettre d'interner les réfugiés espagnols. Toutes ces mesures vont prendre un relief considérable avec le pacte germano-soviétique. 23 août 1939.
Mesdames, Messieurs, veuillez écouter M. Édouard Daladier, président du Conseil des ministres.
Renversant brusquement sa politique et sa doctrine, la Russie a signé avec l'Allemagne un pacte qui lui permet de se dérober aux obligations que lui imposait la politique qu'elle a cependant toujours publiquement affirmées.
Jusqu'au dernier moment, jusqu'en juillet, les soviétiques essayent de trouver un accord militaire avec les occidentaux. Ils finissent par se décourager, ils s'aperçoivent que les Français et les Anglais ne signeront jamais d'accord militaire et attendent tranquillement que l'URSS soit attaquée par Hitler. Ni les soviétiques ni les nazis ne sont dupes, ils gagnent du temps. Ça arrange Staline pour les intérêts de l'URSS, ça lui permet d'avoir un sursis. Hitler, c'est pareil, ça lui permet de gagner du temps, hein. Il n'est pas prêt encore militairement à avoir une guerre sur deux fronts. Bien sûr, ça va complètement bouleverser les plans diplomatiques des Anglais et des Français. La guerre ne commencera pas à l'Est, elle commencera à l'Ouest. C'est pour ça qu'ils vont, quelques semaines après, déclarer la guerre à Hitler qui envahit la Pologne. Pourquoi la Pologne plutôt que la Tchécoslovaquie? Parce qu'il y a eu le pacte germano-soviétique.
Mais nous sommes résolus à ne pas nous soumettre au diktat de la violence. Nous avons pris des armes contre l'agression, nous ne les reposerons que lorsque nous aurons des garanties certaines de sécurité, d'une sécurité qui ne soit pas mise en question tous les 6 mois.
Alors, ils déclarent la guerre, mais ne la font pas. La guerre, elle est déclarée le 1er septembre 1939. Les premières opérations, c'est en mai 40. Presque 9 mois de la fameuse drôle de guerre. Pourquoi la drôle de guerre? Pourquoi la France qui a déclaré la guerre à l'Allemagne ne lui fait pas l'Allemagne? Alors on dit, oui, c'est parce qu'ils étaient sur une stratégie défensive avec la ligne Maginot. Ils ne veulent pas faire la guerre. La meilleure preuve, c'est que si on ne fait pas la guerre à l'Allemagne, en revanche, pendant cette période-là, très curieuse, la drôle de guerre, on va faire la guerre aux Soviétiques du côté de la Finlande, parce que les Soviétiques s'emparent d'un territoire au-dessus de Leningrad pour protéger Leningrad, on envoie un corps expéditionnaire en Finlande contre les Soviétiques, et également on va faire la guerre en Norvège pour couper la route du fer, enfin bref. Mais pas d'opération en France, aucune opération, hein. Pas plus des Anglais que des Français d'ailleurs, parce qu'il y a des troupes anglaises quand même en France, hein. Et donc on va laisser Hitler d'abord écrabouiller la Pologne, les Soviétiques en vont en profiter pour occuper les territoires qui étaient des territoires russes d'avant 1918, une partie du territoire biélorusse, et la France ne fait pas la guerre. En revanche, le pacte germano-soviétique va être une occasion superbe de se débarrasser des communistes en France. On va leur tomber dessus. Ah ah, vous avez voulu qu'on fasse la guerre aux Soviétiques, puis vous avez vu, maintenant les Soviétiques font l'alliance avec notre ennemi, donc vous êtes nos ennemis, vous êtes des agents de l'URSS, et donc on va faire la chasse aux communistes, il y a des élus communistes qui vont passer en tribunal, etc. C'est une véritable chasse aux communistes, hein. Ils sont déclarés illégaux, et la République va tomber sur le Parti communiste rendu responsable, ils sont dans la clandestinité, alors ils sont interdits, ils sont hors la loi. Certains députés vont être arrêtés, ils seront d'ailleurs jugés.
Et arrêtés par la République dès 1939, certains de ces communistes seront plus tard fusillés par les nazis.
Cette période précède la guerre et, comme les décrets de Daladier, prépare ce qui va se passer pendant la France de Vichy.
Nous sommes en guerre.
10 octobre 1939, Édouard Daladier, président du Conseil.
Il y a quelques semaines, les chefs communistes se présentaient à vous comme de farouches patriotes. C'était, à les entendre, de nouveaux jacobins. Ils annonçaient qu'ils seraient à la pointe du combat contre Hitler et contre ses armées. Et il a suffi que les bolcheviks trouvent leur intérêt à s'entendre avec les nazis et à partager avec eux la Pologne pour que ces prétendus nouveaux jacobins passe l'apologie d'une paix de trahison.
Nous avons dit que nous essaierions de faire un parallèle, une comparaison entre ce qui s'est passé pendant cette période-là, la période de 1936 à 1940, et ce qui se passe aujourd'hui. Les Français de 1938 ne sont pas les Français de 2024. Il y a d'énormes différences de pensée, de mentalité, de comportement. Les forces politiques ne sont pas les mêmes. Par exemple, nous avons beaucoup souligné le rôle du Parti communiste qui est central dans cette période-là. Il est au centre des décisions qui sont prises aussi bien à gauche qu'à droite. Aujourd'hui, le Parti communiste, c'est plus grand-chose. Ça se passe plus aujourd'hui entre le Parti communiste et la droite. Cela dit, il reste une gauche et il reste un mouvement social. Alors c'est pareil, la CGT aujourd'hui n'a plus la puissance qu'elle pouvait avoir au moment du Front populaire et avant la guerre. Une véritable puissance capable de faire un mouvement social d'une grande ampleur. Aujourd'hui, mais il y a toujours des luttes sociales et il y a eu, à propos des retraites, certainement qu'il y a d'autres luttes qui sont à venir. Aujourd'hui, sur les salaires, sur les services publics, etc. Donc, il reste un problème social. De toute façon, il reste le problème politique à droite ou politique à gauche. C'est fondamental. Alors, qu'est-ce qui fait ressembler les deux périodes? Qu'est-ce qui fait qu'elles ont un parfum un peu semblable? C'est la politique fasciste et la politique vis-à-vis des étrangers. La droite menacée, la droite en période de crise, même si apparemment, électoralement, elle est majoritaire, la droite est toujours en crise. Le Front National est un signe de la crise de la droite. La droite en crise est toujours tentée de s'échapper par l'extrême droite, l'option fasciste et xénophobe. Or aujourd'hui, en France et en Europe, il y a globalement une montée de l'extrême droite, des nationalismes, de la haine de l'étranger, et l'exploitation qui en est faite par une extrême droite très virulente. Comme dans l'avant-guerre, il y a des mouvements d'extrême droite très actifs, très violents, à peu près dans toute la France, petits groupes, etc., de nazillons et de fascistes en France. On peut bien sûr trouver ça ridicule, dérisoire, 30 personnes là, 50 personnes là, etc. Mais ces gens sont très actifs et sont très dangereux. Avant la Seconde Guerre mondiale, les ligues fascistes étaient plus étoffées. Il y avait pour certaines plusieurs milliers d'adhérents qui pouvaient mobiliser 40, 50 000 personnes, etc. Il y avait le PPF, le parti de Doriot. Dans des meetings, ils rassemblaient des milliers de personnes.
Le phénomène n'est pas nouveau.
Jacques Doriot.
Il date de 20 ans.
Septembre 1939.
Sitôt après la guerre, nous avons confondu l'immigration nécessaire avec l'adoption des revues de tous les pays. Nous avons naturalisé de préférence les politiciens que les travailleurs honnêtes. Le Parti populaire français a proposé un certain nombre de mesures qui permettraient au pays d'utiliser la main-d'œuvre étrangère tout en se gardant des dangers que provoquent les émigrés politiques. Les étrangers ne feraient en France que ce que les Français ne peuvent ou ne veulent faire. Cette règle permettrait de n'admettre que l'immigration nécessaire à notre production et non celle qu'exigent communistes et socialistes pour renforcer leur cohorte révolutionnaire.
Exclu du Parti communiste en 1936, Doriot fonde le Parti populaire français et s'oppose au Front populaire. Doriot est un partisan radical de la collaboration et contribue à la création de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme. Il combat et meurt sous uniforme allemand.
Sous Vichy, ces gens se mobilisent et vont tuer. La milice de Darnan, police parallèle, en uniforme, financée, armée par l'État de Vichy, et qui va assassiner des gens. Des patriotes, des résistants, des démocrates, des juifs. Donc ces gens, tout en étant minoritaires, sont des gens extrêmement dangereux, qu'il ne faut pas sous-estimer.
Le Parti communiste illégal multiplie partout ses responsables.
Joseph Darnan, 1943.
Pour arriver à leur fin, les communistes revêtent tous les masques. Ils se servent du patriotisme contre la France, du nationalisme pour détruire la nation, de l'amour de la liberté pour instaurer la dictature rouge. Face à ces dangers de désagrégation et de mort, la milice française a pour première tâche de sauver la France du bolchevisme.
Quant au maintenant à la fascisation des esprits, aujourd'hui toute une partie de la droite, des gens qui se baptisent républicains et qui ont un discours que ne renie pas l'extrême droite lepéniste. Des gars comme Ciotti, c'est l'exemple typique de notables de la droite qui se sont fascisés. C'est pas d'ailleurs étonnant que ce type-là soit sur la Côte d'Azur. Je rappelle quand même que Darnan, ça se passait à Nice au départ, c'est un patron de société de camionnage, etc. C'est lui qui crée un mouvement fasciste et ensuite après qui va diriger la sinistre milice. La Côte d'Azur, il y a des traditions. Il y a dans cette région PACA, il y a eu l'arrivée de milliers de gens d'extrême droite issus de l'OAS de la guerre d'Algérie. La majorité des pieds noirs se sont retrouvés à l'extrême droite des ultras contre l'indépendance algérienne. C'est un électorat très anti-arabe. Encore une comparaison. Avant, la tête de Turc, c'est le juif. L'antisémitisme, on a dit, est une vieille tradition en France, mais dans les années 30, c'est quasiment un sport national. L'antisémitisme est très très virulent et répandu dans beaucoup de milieux, dans presque tous les milieux, il y a de l'antisémitisme.
Ici vécu Édouard Drumont, qui le premier en France posa le problème juif dans toute son ampleur. L'Institut des questions juives commémore en présence de Madame Drumont le souvenir du courageux précurseur.
1941, exposition « Le Juif et la France ».
Sur 100 Français de vieilles souches françaises, 90 au moins sont de vrais blancs, purs de tout autre mélange racial. Il n'en est pas de même du juif. Celui-ci est issu de métissage accompli il y a déjà plusieurs millénaires entre des Aryens, des Mongols et des Nègres. Le juif a donc un visage, un corps, des attitudes, des gestes qui lui sont propres.
Aujourd'hui, c'est la haine des Arabes qui l'emporte. tous les gens ne sont pas anti-arabes, mais enfin, je pense que la guerre d'Algérie, guerre coloniale, ont engendré en France un sentiment anti-arabe qui, bien sûr, s'est exacerbé avec l'islamisme et avec la guerre du Moyen-Orient. Et aujourd'hui, le bouc émissaire, celui dont on va servir pour faire passer des lois réactionnaires, c'est l'arabe. Ça y est, on s'y est engagé. La loi qui va peut-être passer...
Les lois racistes de Darmanin.
Sur l'immigration, c'est une modification de la législation française et ça ouvre la porte à l'arbitraire anti-étranger. On va donner au préfet, comme pendant cette période-là, le pouvoir de refuser des visas, de refuser des permis de séjour, d'expulser des gens ou de les incarcérer. Dès aujourd'hui, c'est déjà quelque part une chasse. Les médias créent le climat. À chaque fois qu'il y a un incident, un type brandit un couteau en criant à la Ouagbar, c'est pas un phénomène massif, hein. C'est hyper minoritaire. Mais c'est monté en diable et le terrorisme, l'utilisation du mot terrorisme. Bien sûr, il y a des mouvements terroristes, des assassinats, mais enfin, est-ce qu'on est submergé par le terrorisme en France? Moi, je suis assez vieux pour, étant enfant, avoir connu la période de l'OAS.
Organisation armée secrète montée vers la fin de la guerre d'Algérie par des pieds noirs fanatiques et désespérés.
Lorsque de Gaulle décide de négocier avec le FLN une autonomie, une indépendance et l'autodétermination, à partir de ce moment-là, de Gaulle devient l'homme à abattre. Il se crée un mouvement d'extrême droite, l'OAS, où figurent énormément de policiers et de militaires. Et ces gens sont armés, ils ont du plastique, ils ont des armes, etc. Ils vont se lancer dans une vague d'assassinats, de crimes de toutes sortes. On va faire exploser des bombes, on va assassiner des centaines de personnes. Une vague de terrorisme de l'OAS, de l'extrême droite. Il va même y avoir une manifestation anti-OAS organisée par les communistes en mars 62.
Charonne,
oui. Et dans cette manifestation-là, les flics qui sont OAS, qui sont d'ailleurs dirigés par Papon, le sinistre Papon, ancien haut fonctionnaire de Vichy, vont taper très 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 fort et vont assassiner, je crois, 8 personnes dans une bouche de métro à Charonne, dont 2 femmes, un adolescent, etc. Enfin, tous communistes, ou CGT, ou proches. L'époque était beaucoup plus violente et beaucoup plus dure. Aujourd'hui, il y a volontairement une exagération de façon à créer une sorte de psychose, de volonté meurtrière contre des minorités. Les étrangers qui viennent et qui assassinent les Français. Alors, certes, l'assassinat de 2 professeurs dans les établissements scolaires.
Et la vague Bataclan, hyper cachère, Charlie Hebdo.
Ou l'assassinat de journalistes. Tous ces événements sont hyper dramatiques et tragiques, consternants. Il faut garder quand même un peu la tête froide. Est-ce qu'il faut permettre à l'État d'organiser des ratonnades? Et les ratonnades, ça a existé, hein. Il y a eu des ratonnades en France. Hein. En octobre 61, des centaines d'Algériens ont été assassinés à Paris par la police.
L'extrême droite prépare un putsch en liaison avec des éléments de l'armée.
Le 17 octobre 1961, les Algériens de Paris manifestent contre le couvre-feu qui vient de leur être imposé.
Mais la répression policière a été d'une telle brutalité que l'opinion publique s'émeut. Des témoins rapportent aux journaux des scènes de lynchage, de noyades.
Dans la cour même de la préfecture de police, des dizaines de manifestants sont abattus avec sauvagerie.
200 Algériens au moins ont été tués cette nuit-là.
Le fascisme, c'est en France, ça existe. C'est une hypothèse qui n'est pas idiote. Il peut arriver dans notre France, tellement démocratique, il peut arriver ce phénomène-là. J'ai manifesté avec des gens contre la loi immigration, c'est-à-dire qu'ils veulent pas qu'on refoule systématiquement et qu'on pourchasse les étrangers. Mais nous sommes une minorité. Comparaison maintenant politique entre Macron et Daladier. C'est des centristes tous les deux. Centre-gauche, centre-droit.
Le centre est à droite en France, hein.
Oui, c'est Mitterrand qui disait le centre n'est ni à gauche ni à gauche. En gros, c'est des forces politiques assez semblables qui prétendent ne pas être à l'extrême gauche et ne pas être à l'extrême droite. Hein, ni à gauche ni à droite.
Entre les blancs et les rouges, nous voulons demeurer les bleus, ni radicaux, ni marxistes, ni conservateurs. Radico-socialiste, et c'est assez.
Et ces gens qui se parent des plumes de la République et de la démocratie peuvent favoriser, volontairement ou involontairement, mais je pense qu'aujourd'hui c'est volontairement, ils favorisent l'extrême droite pour pouvoir se conforter eux, en disant, vous voyez, l'extrême droite est en train de monter, nous sommes les recours contre une montée de l'extrême droite. Méfiez-vous de ce type d'argument, hein. Voter Macron pour empêcher Le Pen d'arriver au pouvoir, c'est de la connerie.
C'est là que tu nous parles de gribouille, en général.
Gribouille qui se mettait dans la rivière pour pas être mouillé par la pluie, quoi. Complètement ridicule. Macron, c'est le Fourier. Comme Hollande, d'ailleurs. Hein. À l'époque, je disais, ces gens sont les Fouriers de l'extrême droite. Le bilan tellement désastreux que, ne voulant plus recourir à la droite traditionnelle, on se jette dans les bras de l'extrême droite qui propose des solutions faciles. Y a qu'à, il suffit d'eux, etc. Mais nous savons que non. Et on en a déjà fait l'expérience. J'ai vu une émission, on a vu Daladier. Peu avant sa mort, il dit très clairement. Mais vous savez, à l'époque, hein, c'est pas nous qui tenions les leviers. Il y avait derrière les milieux d'affaires, les milieux économiques. Alors il prend des précautions pour parler de ça. Il dit pas, c'est pas la Banque de France, c'est pas... Mais il dit très clairement qu'il avait la main tenue par les milieux d'affaires. Et que aussi bien à Munich que dans sa politique antisociale et anti-étranger, il était téléguidé. Daladier, qui était quand même le leader du parti radical, considéré comme un parti de gauche, je suis de gauche parce que je bouffe du curé, eh bien non, le parti radical porte une responsabilité écrasante dans la destruction de la République. D'ailleurs, après la guerre, en 1945, on ne veut plus remettre la Troisième République. Elle est tellement discréditée par ces gens-là, par leur parti radical en particulier, d'abord parce que le parti radical prend une claque électoralement, une grosse claque hein, après la guerre. Alors il garde quelques petits bastions dans le sud-ouest, tu sais, le radicalisme cassoulet, mais enfin il prend une grosse claque parce que les gens le rendent responsable, à juste titre, du désastre de la guerre et du régime de Vichy.
Daladier se prétendait de gauche parce qu'il prétendait être radical. Aujourd'hui, on a un Darmanin qui se prétend issu de la gauche, hein, parce que soi-disant socialiste.
Si Macron est à gauche, bon, moi je suis archevêque.
Aujourd'hui, 2024, on ne persécute plus les communistes. Évidemment, ils ont disparu. Par contre, il continue à y avoir une très forte répression policière et judiciaire vis-à-vis des syndicalistes. Il y a une nouvelle cible pour l'actuel pouvoir, ce sont les militants écologistes. Tout ce qui est soulèvement de la terre, anti-bassine, on a une situation invraisemblable hein, où on a les tenants de l'agro-industrie polluante, mortifère et cancérigène. Les exploitants agricoles de la FNSEA peuvent bloquer des péages d'autoroute, brûler des bâtiments publics, et c'est à peine si le préfet vient leur apporter des chocolats chauds au péage devant les pneus qui brûlent. Par contre, dès qu'il y a un zadiste qui bouge une oreille, là c'est 5000 grenades dans la gueule, comme à Sainte-Soline. Répression policière, répression judiciaire, ça fait penser à ces décrets-loi d'Aladier.
On judiciarise des choses qui relèvent de la politique. On fait des procès correctionnels pour des choses qui relèvent du délit d'opinion. Alors bien sûr, sur fond d'enfumage médiatique, ça aussi, il faudrait faire une comparaison, la presse. La presse avant la guerre, c'est une presse pourrie, vénale. La grande presse, qui va d'ailleurs sombrer dans la collaboration, dans le vichisme, sans état d'âme. Après la guerre, les journaux qui ont continué à paraître sous Vichy vont être confisqués et confiés à des collectifs de syndicats et de partis politiques. Bon. Il y a aussi, à côté de cette presse, il y a l'Humanité, le Populaire, Canard Enchaîné déjà à l'époque, etc. Puis un certain nombre de publications à peu près indépendantes. En tout cas, indépendantes des pouvoirs d'argent. Aujourd'hui, la grande presse, à 100%, elle appartient aux grandes fortunes, grandes bourgeoisies, voire la très grande bourgeoisie.
L'essentiel des médias privés sont entre les mains en France aujourd'hui d'une dizaine de milliardaires. Et cette presse d'aujourd'hui, elle est tout aussi pourrie que celle des années 30.
Aujourd'hui, je crois qu'on est dans une situation pire qu'avant la guerre. Avant la guerre, la population a quand même certains relais de l'opposition. Les communistes, ils ont deux journaux, je crois, quotidiens, hein, Le Soir, je crois, et puis L'Humanité. La presse communiste, elle compte quand même dans l'opinion. Et puis, il y a une presse syndicale aussi, La Vie Ouvrière, de la CGT. Il n'y a pas un seul son de cloche. Alors qu'aujourd'hui, il y a une seule vérité. Et tout le monde, le petit doigt à la couture du pantalon. Et c'est ça qui est inquiétant. Regarde, on fait la guerre aux Russes. Avec la peau des Ukrainiens. Est-ce qu'il y a eu une discussion, une vraie discussion? Est-ce qu'il y a eu une vraie information des gens avant de s'engager dans cette horreur? D'emblée, les choses étaient pliées. Les Russes sont les méchants. On a raison d'armer les Ukrainiens et les Ukrainiens sont les gentils. Terminé. D'ailleurs, au début, Gaza, ça a commencé comme ça. Bon, ça a rué un peu dans les brancards parce que la dissymétrie était telle qu'il a bien fallu quand même rétablir un peu les choses, mais pas tellement, à vrai dire. Il faut aller vraiment sur certains réseaux, mais qui est-ce qui va dire le monde diplomatique, pour avoir un peu de la réalité, quoi. Et cela m'inquiète. J'avais dit que les programmes d'histoire et l'abrutissement des gens étaient tels que je me demande si les jeunes pourront distinguer dans l'avenir un régime démocratique d'un régime de dictature totalitaire. Je suis pas sûr du tout. Pour ça, il faut un minimum de formation civique, de formation politique et historique, pour avoir des citoyens conscients et qui peuvent défendre la République. Parce qu'aujourd'hui, qui peut défendre la République, ils ne savent pas ce que c'est que la République. L'histoire est racontée par Stéphane Bern. Même l'histoire que nous venons de raconter, traduite dans les manuels d'histoire du secondaire et dans la formation des profs, il y a quand même un enfumage, une aliénation. Les gens ne savent pas très bien où ils sont, quoi. Quand on dit « il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de lutte de classe, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus d'enjeu », où est la gauche, où est la droite ? En 1939, on peut savoir où est la gauche et la droite, mais aujourd'hui, Hollande ou Macron se prétendent de gauche, quoi. Ah oui, je suis à gauche du Front National, donc je suis à gauche. La période est extrêmement dangereuse à cause de la confusion. Je pense que l'extrême droite bénéficie de la confusion. On confond tout. Que tu disais tout à l'heure qu'il y a une répression qui s'exerce contre des militants écologistes qui se battent en France pour l'eau, pour la qualité de la vie, pour un autre système agricole, etc. On les assimile à des terroristes. Les terroristes, ce n'est pas les géants de l'agroalimentaire ou la très grosse paysannerie qui bousille les sols, qui empoisonne les gens. Non. Tu as vu ce qui s'est passé à la commission de Bruxelles. La maire Leyen a aboli toutes les limitations écologiques qui avaient été prévues par l'Europe concernant les pesticides, les trucs comme ça. On n'en parle plus, hein. Ces gens ont le droit, d'un côté, d'empoisonner l'humanité au prix de milliers de cancers, de milliers de malformations, de troubles de la santé par milliers. Les salauds, c'est les gens qui s'attaquent à ce type d'agriculture. On voit à qui profite le crime. On est dans une période dangereuse parce que toute remise en cause aujourd'hui de la politique qui est menée par les libéraux, c'est une remise en cause radicale. Il n'y a plus de moyen terme entre continuer cette politique libérale assassine, hein, pour le corps social, pour les services publics. Quand on voit l'état de la santé publique et de l'éducation nationale, on voit à quel point de ruine on est arrivé. Où on laisse faire cette politique-là, et là, on va vers des désastres sociaux et écologiques. Ou alors, il y a une autre politique, mais cette autre politique, c'est forcément une politique radicalement opposée, et ça suppose d'opérer contre la violence de l'établissement, une autre violence. Ça ne se passera pas calmement. Parce que les gens qui détiennent le pouvoir, la richesse aujourd'hui, ne se laisseront pas dépouiller. Ça ne s'est jamais fait. Et ils résisteront, ils ont des moyens considérables. Aujourd'hui, ce sont des moyens légaux ou semi-légaux. Ils sont tout à fait prêts à utiliser l'extrême droite pour des moyens illégaux. Les gens qui ont le pouvoir et le pognon, lorsque leur situation est en danger, ils sont prêts à tout. Et ils ont les moyens de l'assassinat politique. Il n'y a qu'à voir Israël, qui depuis des années opère l'assassinat politique en grand. Hein. Des centaines d'opposants en Palestine ont été assassinés par l'État. Pour l'instant, ces gens se défendent avec les médias et la loi.
Et la police.
De plus en plus, la police. La police, c'est également au-delà de la loi. C'est-à-dire qu'on va donner à la police petit à petit des moyens qui sont bien au-delà des limites que devrait avoir la police. Ses droits, c'est l'assassinat. Il y a déjà eu des gens tués par la police. Aujourd'hui, le corps social est en danger de mort. La société est tellement dégradée. Pour l'instant, les réactions sont des réactions individuelles. Un type prend un couteau de cuisine et tue une, deux personnes, trois personnes. Ils deviennent fous, quoi. La société rend les gens fous, violents. Mais tu peux aussi avoir des mouvements sociaux, collectifs d'une grande ampleur, plus ou moins organisés, d'immenses jacqueries.
Comme les Gilets jaunes.
La tentation est grande pour le parti conservateur d'envoyer la police. L'armée est déjà en train de patrouiller contre le terrorisme. On a bien compris ce qu'ils appelaient terroristes, c'est aussi éventuellement l'opposition et les manifestations. À quand la répression des manifestations par l'armée en France? Je vous rappelle quand même que ça s'est déjà passé. Hein, en 1947, le gouvernement a lancé l'armée contre les grévistes.
Le gouvernement et ses CRS renforcent ses brutalités et déclenchent de vastes opérations militaires. Les mitrailleuses crachent. Deux hommes meurent sous les balles. Les mineurs aux mains nues ripostent avec ce qu'ils peuvent. Avec ce qui a été dépensé pour briser la grève des mineurs, on aurait pu donner satisfaction à leurs revendications pendant 4 ans. Et on préfère accorder 15 000 francs par mois de prime à chaque CRS que 14 300 francs par mois de minimum vital aux mineurs. Conséquence directe du plan Marshall, le matériel et les équipements américains finissent par avoir raison. Des boulons, des morceaux de bois et des pierres trouvés sur place par des hommes totalement désarmés. Les CRS parviennent à envahir les mines. C'est l'occupation, comme autant d'ébauches. Mais ce ne sont pas les CRS qui peuvent faire remonter le charbon. Pour Manche, tous les moyens sont bons, même les plus ignobles. Laissant libre cours à sa xénophobie, oubliant les monuments aux morts de la résistance qui portent tant de noms à consonance étrangère, il offre aux ouvriers étrangers ce dilemme machiavélique. Le travail du briseur de grève ou la frontière. Pour les Espagnols antifascistes, c'est la mort.
Quand le pouvoir est en danger, il est capable des pires choses. Or, actuellement, il se criminalise, le pouvoir. Il suffit de voir toutes les affaires qui lui pendonnaient, il est mis en cause. Qu'est-ce qui reste à la droite ordinaire aujourd'hui pour se maintenir au pouvoir? L'alliance avec l'extrême droite. Donc on va vers un système d'alliance entre l'extrême droite et la droite. Alors, qu'est-ce que la droite va consentir à l'extrême droite pour l'associer au pouvoir? Sur le plan économique, il n'y aura rien de changé. Le pognon est au pouvoir, il va rester au pouvoir avec l'extrême droite. Hein. Aucun doute à cet égard. Donc que va demander le Front National? Les ministères qui lui paraissent importants. La police, un certain nombre de ministères comme ça, où ils peuvent faire très mal. Et puis, il faudra bien nommer des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires. Ils seront dans la place et seront difficiles à déloger. Le seul domaine où ils essaieront d'exister, c'est le domaine de la xénophobie, du racisme, un truc comme ça. Sans pour autant apporter de solution, parce que je pense que l'immigration est un phénomène beaucoup plus puissant que les paroles de Le Pen et compagnie, et que ce ne sera pas fait comme ça. Mais je pense qu'il y aura violence, certainement. Les écologistes aussi feront les frais de cette accession de l'extrême droite au pouvoir. Puis en matière de droits sociétaux également, je pense qu'également la droite s'appuiera sur les traditionalistes, etc., pour se maintenir au pouvoir. Je pense pas qu'on aille à la guerre, guerre extérieure, quoi. Rassemblement national, c'est un peu comme Trump, hein. Ils vont s'occuper d'abord des affaires intérieures. C'est ça que je crains, c'est qu'on rapatrie les soldats qui sont dans le Sahel pour s'occuper des affaires intérieures. Parce qu'ils ont des gens dans l'armée, là, le Front National. Ils ont des officiers acquis aux idées du Rassemblement National. Donner du pouvoir à ces gens-là, c'est quand même un petit peu dangereux. Hein. Je ne pense pas qu'on ait une situation telle que celle de 1960 où l'armée refuse de marcher dans un putsch d'extrême droite.
Français et Françaises, l'armée vous parle.
Dans la nuit du 21 au 22 avril, suivant un plan préparé depuis des semaines, les parachutistes du 1er REP et les commandos de l'air se sont emparés des points vitaux d'Alger.
L'armée française avait fait le serment solennel de garder l'Algérie dans la souveraineté française. Ce serment, nous venons aujourd'hui, au nom de l'armée, vous le renouveler.
Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité, un groupe d'officiers, partisans, ambitieux et fanatiques.
Je connais pas l'état d'esprit de l'armée aujourd'hui, mais tout est à craindre. Aujourd'hui, il semble que le balancier en France penche du côté de l'extrême droite. L'incapacité de la gauche de s'unir est en grande partie responsable de la montée de l'extrême droite. Si la droite est aussi insolente, toutes les droites sont aussi insolentes aujourd'hui, c'est qu'ils savent qu'ils sont majoritaires, parce que la gauche ne propose pas quelque chose, parce qu'ils ne sont pas d'accord. Comme à l'époque des années 30, il y a deux gauches. Dans les années 30, les critères c'était pour ou contre Munich, pour ou contre le syndicalisme revendicatif, la classe ouvrière. Aujourd'hui, quels sont les motifs? C'est l'OTAN et l'Union européenne. Il y a une gauche qui veut dénoncer les traités, ceux de l'OTAN et ceux de l'Union européenne, puis il y a une gauche qui veut continuer à accepter ces traités, et c'est totalement inconciliable. Mélenchon et les Insoumis ont au départ proposé un programme contre les traités européens et contre l'appartenance à l'OTAN. C'était effectivement la condition sine qua non pour pouvoir appliquer une politique radicalement différente en France. Aussi bien l'Union européenne que l'OTAN sont là pour interdire à la France comment s'entendre. Mélenchon ne peut pas se passer d'un accord politique avec le reste de la gauche. Ce sont des choses totalement incompatibles. Effectivement, le Front populaire, il a éclaté pour les mêmes raisons. On s'allie contre le fascisme, bien, parfait, et en même temps, pour le progrès social. Puis à un moment donné, où c'est fini, il n'y a plus d'accord, parce que c'est pour ou contre la politique munichoise, l'équivalent de l'OTAN, pour ou contre la poursuite de la politique sociale. La gauche éclate en 1937 et aujourd'hui elle est éclatée à peu près des raisons qui ressemblent beaucoup. Quand la gauche est éclatée, bah c'est l'extrême droite qui l'emporte. Hein. La droite, et voire l'extrême droite. La situation devient tellement grave. On voit la ruine du système de santé. Ceci sur le fond de liquidation progressive de la protection sociale, de la libération. Il y a un moment donné où le niveau de misère sera tel que, quand tu arrives à une personne sur 5, sur 6, sous le seuil de pauvreté, c'est difficile de mettre la poussière sous le tapis. Et là se posent des problèmes fondamentaux. Fiscalité, répartition de la richesse, austérité ou non, défense du service public, ou bénéfice des oligarques. Il faudra faire des choix. Il faudra refaire ses choix. Pour l'instant, une partie des classes moyennes bouge pas. Tout est fait pour que ces gens se recroquevillent, baissent la tête, etc. et se résignent. Jusqu'à quand ? Il y a des gens qui aujourd'hui ont une situation à peu près correcte, mais les enfants n'ont plus d'avenir. On peut espérer une prise de conscience radicale. Même chose pour l'écologie. L'eau va manquer. Elle manque déjà. C'est une situation hyper critique. Et le système est incapable de répondre à ces gens-là. On peut imaginer que nos civilisations entrent dans des périodes de désordre profond. L'Union européenne, pour commencer, va éclater. Et je ne pense pas qu'on continue la guerre en Ukraine. Enfin, toutes ces choses qui aujourd'hui semblent intangibles, à mon avis, vont disparaître assez vite parce que les gens auront des problèmes tellement importants que aller aider les Ukrainiens à faire la guerre aux Russes, ça va être le cadet de leurs soucis. Aller suivre les guerres américaines, etc., ça va sembler un petit peu dérisoire. Parce que pour l'instant, on est les bons élèves des Américains, les vassaux des Américains, mais jusqu'à quand ? Quand Trump va être élu, et que les Français vont s'apercevoir que les Américains sont gouvernés par des gros cons, parce qu'il y a beaucoup de gros cons aux États-Unis, peut-être qu'on sera moins disposé à être gentil avec les États-Unis. Il y a encore un parallèle qu'on pourrait faire. Très souvent, les classes dirigeantes en France, la bourgeoisie française, se cachent derrière un régime étranger, affiche une admiration, un alignement. Dans les années 1930, la bourgeoisie française, beaucoup de bourgeois, pensent que le système allemand, il est très bien. Au moins jusqu'en 1943-44, impeccable système allemand. Après la guerre, c'est les Américains qui deviennent le modèle. Toujours réfugiés derrière un modèle capable d'établir un modèle français. La bourgeoisie française s'est toujours fait aider par une puissance étrangère pour maintenir sa domination en France. On est allé chercher chez les étrangers les raisons d'écraser le peuple chez nous. Aujourd'hui, le modèle allemand, aujourd'hui, il est en train de s'effriter, le modèle allemand. Ils ont leurs pauvres, hein. Ils ont leurs chômeurs, ils ont leurs bas salaires, ils ont leurs difficultés de plus en plus, et maintenant des difficultés, manque d'énergie, etc. Et le modèle allemand en prend des coups dans l'aile. Ceci me fait dire que ce qui paraît intangible, ce qui paraît inchangeable, aujourd'hui, peut tout à fait changer demain. À la veille de la Révolution française, personne n'a prévu, il n'y a pas de texte disant très clairement la monarchie, l'aristocratie, tout ça, les privilèges, tout ça va disparaître. Et d'ailleurs, en Europe, la Révolution française a complètement stupéfait. Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont coupé la tête au roi. Les gens n'imaginaient pas, dans le reste de l'Europe, vivre autrement que sous le système monarchique et aristocratique. Aujourd'hui, personne n'imagine de sortir du système de l'économie libérale, de marché libre et non faussé, de libre entreprise, etc., et de grand trust. Hein. Si le sort de l'humanité est en danger, ce qui est aujourd'hui le cas, puisqu'on est en train de bousiller la Terre, elle sera plus vivable dans assez peu de temps. Y aura-t-il un instinct de conservation qui fera qu'on va peut-être se débarrasser des parasites ? On va se débarrasser des gens qui décident aujourd'hui du sort de la Terre. Comme ils nous mènent à la mort, ces gens-là, on n'est pas obligé de les fusiller. Hein. Il faut rester humain. Hein.